La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Et nous voici de retour dans cette midinale du
14 mars.
Voilà, j'avais déjà oublié quel jour on était, on est bien. Et nous recevons des invités aujourd'hui aussi, les organisateurs, si j'ai bien compris, et groupes musicaux d'un événement qui aura lieu le 19 mars, Galette sur la Blanche, Rilas Party. Je vous laisse donc vous présenter.
Salut, donc Morgane, moi je suis guitariste chanteuse dans Butcher et Sizzlack et je fais partie de l'orga, donc de cette méga release party au Club de la Carène, samedi 19 mars, dès 20h30.
Bonjour, je suis Mick d'Inhu Mankind Death We Trust, qui fait également partie de l'organisation de la soirée dans le cadre de l'association Food Train. Là, c'est une coproduction entre la Carène et Food Train, là. Samedi prochain, voilà.
Bonjour, je m'appelle Yuen, je suis admirateur de la voix de Mick. Accessoirement, je joue de la guitare dans les Mad Dogs et je fais l'affiche de la soirée.
Eh bien, merci, bonjour à vous.
Ouais.
Salut.
Alors, dites-nous en plus de cette galette sur la blanche. D'ailleurs, je suis intrigué, moi, par le nom que vous avez choisi.
Ah, c'est un hommage au
Rock sur la Blanche.
À Rock sur la Blanche, qui était festival lors de la fête de la musique à la fin des années 80. Ça avait lieu sur le jardin Kennedy à l'époque. Et galette sur la blanche, oui, c'est drôle. Enfin, nous, ça nous fait rire, en tout cas.
Des galettes parce que des disques.
Voilà. Moi, je pensais une autre galette, moi. Mais pourquoi,
oui, non, une autre blanche aussi, mais c'est, voilà.
Bon, ça va, c'est bien, ça laisse l'imagination
travailler. Ça laisse l'imaginaire, oui.
Et donc, c'est à la Carène, c'est ça ce qu'on l'a dit.
C'est donc à la Carène, dans le club de la Carène, la petite salle. Et ça, voilà, ça commence à quelle heure déjà?
Ouverture des portes à 20h30 et premier groupe sur scène à 21h. Donc, c'est le moment de pouvoir parler de la programmation. Donc il y aura Van Nistelrooy.
Ouais.
Eux, ils sont sur du rock indie, garage 90.
C'est mes étudiants attardés préférés de la ville de Brest.
Voilà. Ensuite, on aura Mad Dogs.
Mad Dogs.
Ouais, on est actifs depuis 2018 et on joue le roll de rock and roll.
Oui.
Yeah, c'est joliment dit.
Ensuite, tu auras Spernut, donc plus rock punk garage.
Du brutal garage punk, ouais. Je dirais.
Inhu Mankind Death We Trust,
dont je suis désormais le chanteur, parce que on va en parler après, mais cette soirée est prévue depuis vraiment très longtemps.
C'est ça.
Voilà, punk hardcore, c'est un des meilleurs groupes de la ville en la matière. Quoi.
Rien que ça.
Ouais. On confirme.
Voilà, et donc on clôture avec Butcher et Sizzlack, duo Mad Blues, influencé par Black Sabbath.
Et tout ça, ça va nous emmener jusqu'à 2h du mat, au moins.
Bah, fermeture de la carrière à 2h, ouais.
Ah ouais. Cool.
C'est bien ça, le retour des concerts.
Et il me semble en plus que c'est pour toutes les bourses parce que c'est vraiment pas cher.
Ouais.
Non, en effet. Donc, du coup, là, toi, tu peux acheter ton ticket en pré-vente à 6€. Sur place, ce sera 8 boules. Ou 8€ toujours. Et si tu es adhérent à la Carène, c'est 5€ dans les deux cas.
Oh, c'est cool.
Oh,
voilà.
Pour cinq groupes, dans
des conditions de concert, avec des vraies lumières, une vraie sono, enfin c'est... Voilà,
Est-ce que tu veux dire que si on fait ça ici, dans les locaux, il n'y a pas la vraie sono, quoi,
c'est pas ça, mais moi j'adore faire des concerts, genre à Avenir, ce genre de truc, mais c'est rare qu'on ait des retours, par exemple.
Aïe.
Là, par exemple, j'aurais pas d'excuses, j'entendrais ce que je ferais, quoi, si
tu
veux. C'est...
Tu comprendras pourquoi après les gens quittent la salle ou pas, quoi.
Et, ou pourquoi ils restent, dis donc
Bon, qu'est-ce que vous avez parce que là, il y a du nouveau groupe, je crois, dans ce que vous avez cité, il y en a au moins un, ou vous avez d'autres projets, même pour les groupes d'avant
Alors non, on est sur la même programmation qui était prévue au départ, donc c'était le 24 avril 2020. Donc là, c'est le deuxième report, et donc ça va se faire, et on est content, enfin. Et non, donc c'est la même prog de départ. Donc c'est cool parce qu'on sait qu'autour de nous, il y a quand même certains groupes qui ont arrêté voilà, avec 2 ans difficiles. Donc on espère aussi que ça va pouvoir reprendre bien pour tout le monde, que ce soit voilà, pas que pour les pros affichés, on va dire, intermittents, et aussi pour toute la scène dans sa globalité, quoi. Parce que là, on n'a pas beaucoup joué, quoi.
Non, c'est vrai. Et il y a de la demande, hein, parce que le public, ouais. il en veut, quoi. Et puis, en fait, ce sera cool, parce que ce sera sans passe, sans masque.
Voilà. Il y a pas,
à l'ancienne, quoi.
À l'ancienne, voilà. Bah oui, on nous laisse un peu de liberté avant les élections, on en profite.
Ouais, hein, on sait jamais. Hein. Des fois que dans une semaine, ils nous refoutent une
colère. Que... Plus rien ne m'étonne, mon ami, plus rien ne m'étonne.
Donc c'est un concert où tous vos fuites corporelles sont bienvenues. N'ayez pas honte.
Même les plus abjectes.
Est-ce que vous avez envie de nous dire d'autres choses sur autour de tout ça?
Bah, qu'est-ce que je peux avoir envie de dire? Si, que la formation d'Inhu Mankind a quand même changé, parce que je n'étais pas le chanteur à l'origine du projet. Sur la démo qui sera en vente ce soir-là, Jean ne joue pas de la basse non plus, mais c'est quand même vachement bien. Hein, voilà.
Démo qui s'appelle comment?
Je me rappelle plus.
La main du mort.
La main du mort, ouais. Enfin, je sais pas.
Il est au top.
Ouais. Non, mais faut l'acheter, c'est vachement bien. Et acheter les t-shirts aussi. Si tout le monde achète des t-shirts, ça va être vachement cool.
Ouais, ce sera la kermesse de tout le monde. En fait, on a... Donc, tous les groupes ont sorti des EP, des albums en 2020. À l'époque, c'était le prétexte initial. Ils sont toujours dehors, ces EP-là. Ils seront donc en vente sur les stands merch. Il y aura, je pense, un peu d'autres surprises aussi que les EP. Il y aura peut-être des t-shirts, des stickers, juste comme ça. Et de quoi pour chacun repartir avec un petit truc en plus de son gobelet Karen, évidemment.
Oh, enfin, le gobelet Karen, bon, ça, c'est pas trop.
Mais c'est plus marqué Karen sur certains.
autre chose, quoi.
Non, c'est bien, faut faire de l'autopromo, moi j'aime ça.
Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute un petit morceau pour vous en avant-bouche, quoi? Ou ça se dit, ça?
En avant-bouche, ouais. Oui, on peut dire ça.
Bah, tu peux en mettre un, tu peux en mettre deux.
J'en ai deux sous la main. J'en ai un des Butcher and Sizzlack et j'en ai un de Mad Dogs.
Allez, on voit un petit Butcher d'abord.
Faut
bien prendre une décision.
Alors ça, c'est un des derniers titres, il me semble, hein, c'est ce que tu me disais.
Ouais, bah du coup, ça, c'est sur le CD 4 titres qu'on aura en vente à Karen samedi.
Et qui s'appelle Majorettes of Hope.
Ouais, Majorettes of Hope.
Majorettes of Hope.
Le matin, je fais pas de...
Non, voilà, plus moi et l'anglais, tu sais.
D'anglais.
Ah bah tiens, allez, on l'écoute et on en rediscute ou pas après, comme vous voulez.
Oh non, oui.
Hein, si je vois.
Tranquille, c'est midi là.
We'll be right back.
envoie du steak, comme on dit.
Du poney.
Du poney. Donc ça, c'est bon, pour la carène samedi soir. Donc 20h, ouverture des portes.
20h30, ouverture des portes.
Ah pardon, et 21h, premier groupe. Non, c'était pour être sûr que les gens soient à l'heure.
Tout à fait, oui.
Parce qu'à Brest, le quart d'heure brestois, ils vont encore se pointer en retard. Et vous avez prévu de partir ensemble, là, tous ces groupes, tournée, mini-tournée, big tournée, quelque chose derrière.
Alors, au départ, donc en 2020, on avait réussi à caler une date. C'était donc un vendredi, c'était prévu. Une date le lendemain, le samedi, à Tomahawk, on était sur un plateau commun avec trois de ces, ces cinq groupes-là. Mais là, je t'avoue qu'on ne savait même pas si ça allait tenir, donc on se concentre sur cette date-là pour l'instant.
D'accord. Et donc cet album des Butcher and Sizzla, il y a combien de titres dessus là?
Ça, c'est un deuxième EP, quatre titres.
D'accord.
Voilà, donc enregistré juste avant la pandémie.
Donc c'était avec Mo au chant et Jean à la guitare.
Non. mais t'es pas loin.
Dis-moi tout.
Allez, donc du coup, Sizzlak, Jean à la batterie et au chant, et Mo, Butcher, donc moi au chant et à la guitare.
D'accord, voilà. Moi je me suis juste planté dans les instruments, quoi.
Oui, c'est pas grave.
Non, disons que ça manquait de précision,
ouais,
c'était pas
mais
mal.
Tu sais, nous on est quatrième sur l'info, alors ouais. C'est un style sur pièce.
Quatrième sur l'info, ça c'est pas mal.
Bon, on s'améliore.
Ouais.
Donc, peut-être qu'on peut dire un petit mot sur l'affiche, si on profite que Yuen soit là.
Ouais, Yuen, dis-nous tout sur l'affiche.
Ouais, l'affiche était quelque chose qui a été demandé en filiation directe avec ce qui s'est passé avec Rock sur la Blanche. Donc, pour remettre ça dans le contexte où les affiches de Rock sur la Blanche sont des peintures de Bloas qui mettent vraiment en avant les gens, quoi, simplement, des grands portraits, des grands personnages comme ça. Qu'on m'a signifié de creuser dans cette veine-là. Et donc, voilà, plein de coups de crayon, plein de grosses couleurs et puis des slips rouges, quoi.
Des slips rouges,
je vais pas se mentir.
Il me dit ça avec des yeux. Des slips rouges, quoi, merde.
Ouais, disons que c'est marrant de faire des affiches qui essaient de gueuler aussi fort que les musiciens sur scène, de temps en temps.
Et elle est déjà collée partout, l'affiche, là ?
Partout.
Vous avez recouvert Brest.
C'est vrai que tu as la radio, ça va être dur de la montrer, mais bon.
C'est quand même... wow, on pourra peut-être le mettre dans l'article, tu vois, une petite image pour que les gens fassent le lien, quoi. Si ça vous va. Hein.
Oui, oui.
Il faut qu'on fasse ça avant samedi, bien sûr, sinon ça vaut pas le coup.
Oui, ce serait mieux.
Ça serait mieux.
Mais on va y arriver.
Ouais.
Et donc, du coup, Yuen,
oui.
Toi, t'es dans Mad Dogs.
Ouais, je suis dans Mad Dogs, ouais. Jusqu'au cou.
Jusqu'au cou. Et alors, tu m'as fait charger...
Ouais.
Un titre qui s'appelle There Were People, There Was Music.
Ouais, absolument.
C'est récent aussi, ça, alors
Ça sonne comme quelque chose de récent par rapport au fait qu'on se vient de se taper 2 ans sans personne ni musique.
Ouais.
Mais c'est un des premiers morceaux du groupe qu'on a commencé à répéter, qu'on a joué au Petit Minou à l'époque pour le premier concert. Et ouais, c'est un morceau qui parle du fait qu'il y ait des gens de la musique et que c'est un truc qu'on aime bien. Et qu'on espère qu'on ne sera pas les seuls à bien aimer samedi prochain.
Eh bien, on l'envoie.
Ouais, parti. We'll be right back.
ça, vous n'avez pas envie de venir samedi, franchement.
Je comprends pas.
Eh ben, merci en tout cas d'être venu nous présenter cette super soirée galette sur la blanche.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
Merci de voir, mais quelle voix.
Bah, j'essaye de faire Barry White depuis des années, mais j'y arrive pas encore.
C'était pas mal.
C'est pas mal.
C'est sur la voix. Merci. C'est des encouragements qui vont droit au cœur.
On vous dit à samedi en tout cas. Oui, à samedi.
Il y a de fortes chances qu'on vienne. Ouais.
Trop bien.
Vous serez les bienvenus.
Ah, merci. Bon, bah des bisous. Et puis,
bah, des bisous,
bon après-midi à vous.
Merci de l'accueil.
Ouais, de rien, c'est normal.
Bon, et nous, on prend des choses plus graves.
Ouais, après ce petit moment de retour à la liberté annoncé à la carène, on va enchaîner avec Asgard et Naori, si j'ai dit bien ton prénom.
C'est bien ça.
C'est ça, sur le rassemblement anti-Zemmour qui a eu lieu à Saint-Renan. Et
on dit
sur...
anti-Zorglub.
Ouais, anti-Zorglub, ouais. Bon, anti-nain de jardin chauve, comme tu veux. C'est... Il s'appellera comme il voudra.
Alors on laisse s'installer les chroniqueurs qui prennent la place des musicos.
Donc ils vont nous parler de ça.
Et des musiquettes.
Et ils vont nous parler aussi de la suite des procès de Pontanezen. On enchaîne.
Oui, bonjour à toutes et à toutes.
Salut.
Donc pour faire un point en fait sur le rassemblement contre le meeting de Reconquête qui avait lieu du coup à Saint-Renan samedi 13. Non, samedi 12, il me semble. Donc voilà, comme d'habitude, Reconquête qui...
Vendredi même, je crois.
Vendredi, oui, effectivement, vendredi.
C'est pas grave.
Vendredi 11, du coup. Donc comme d'habitude, Reconquête qui balance un peu l'info 2-3 jours avant, quoi, histoire de pas laisser aux organisations le temps de s'organiser, quoi.
Tu veux dire aux organisations...
nos organisations, on va dire nos organisations de...
Les contestataires gauchos, que te diraient les gens de...
Voilà, exactement, exactement.
Les punks à chiens.
Les punks à chiens, comme dirait une certaine Marine.
Ou le Télégramme.
Exactement, exactement.
Ouais.
Donc voilà, que dire de ce rassemblement. Donc franchement, j'ai trouvé très bonne mobilisation, malgré le peu de temps qu'il a fallu pour s'organiser. Donc... rassemblement annoncé par Visa 29 et relayé par la CGT Sud.
Il y avait le collectif brestoise aussi pour les droits des femmes.
Également, oui. L'UCL aussi.
Ouais. Il y avait plusieurs organisations, au moins 6 ou 7 quoi, ouais. qui appelaient. Quoi,
exactement. Minimum. Exactement. Donc. Une bonne organisation quand même sur le convoiturage qui a permis aux gens de s'y rendre aussi. Donc arrivé sur place et même avant, donc on a pu observer un fort dispositif de gendarmes, quoi, puisqu'ils étaient là bien en amont en fait de Saint-Renan sur les ronds-points. On sait qu'il y en a qui ont été contrôlés, quoi. Nous on n'a pas été contrôlés, donc c'est bon. Donc arrivé sur les lieux, on a pu observer déjà le service d'ordre de du parti du pseudo-parti Reconquête, quoi. Et certains d'entre nous ont pu remarquer la présence de membres de l'Action française de Brest. Donc moi je trouve en fait que leur truc il a floppé totalement, quoi, parce que sachant que la salle qui était réservée, donc l'espace culturel de Saint-Renan, qui peut accueillir selon les sources
on parlait de 5000, moi.
Ouais, comme ça, 5000, il y a déjà eu des concerts à 5000 debout. Donc, avec les images qu'on a pu voir, je crois qu'ils avaient mis au moins 500 places, hein, moi. Enfin, entre 300 et 500 places, un truc comme ça. Je suis très mauvais dans les comptes, quoi. Mais voilà, donc on parle de à peu près chez eux de 200 à 250 participants.
Le Telegram parle de 250.
Le Telegram parle de 250. Ouais. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup moins, ouais, c'est ça, exactement.
Bah, honnêtement, pour avoir fait notre boulot de journaliste devant l'entrée de l'espace culturel, avoir essayé de compter les gens qui rentraient dans la salle, alors sauf s'il y avait des cachettes, des entrées secrètes.
Ouais, et puis.
J'ai pas vu 100 personnes rentrer, quoi.
Déjà, et puis il faut pas oublier que, apparemment, d'après ce que nous ont dit certaines personnes qui s'y rendaient, il y avait aussi la projection d'un film aussi.
Oui, parce qu'ils avaient déplacé à Saint-Renan, le cinéma étant en travaux, ils ont déplacé les séances de cinéma dans l'espace culturel. Ouais. Et la mairie n'a rien trouvé de mieux que garder l'entrée principale pour les deux événements, quoi. Histoire de
semer. Ça fait du chiffre.
Ouais.
Bien sûr, et puis ce que nous disaient les gens trouvaient ça un peu aberrant qu'il y ait en fait un meeting d'un parti qui venait prononcer en fait ses discours de haine dans un espace qui est dédié à la culture. Mmh. Donc, franchement, le maire, bravo hein, d'avoir laissé faire ça, quoi.
Ah, il assume en plus, quoi.
Il assume, apparemment.
Au nom de la démocratie, c'est ça? Au nom de le...
Ouais, c'est les mêmes politiques qui assument aussi de faire des réserves de voix pour les gens qui n'ont pas leur 500 parrainages. Mmh. C'est ça, la démocratie.
Mmh. Ouais, exactement. C'est... Donc, au niveau des manifestants, je pense qu'on devait être au moins 150, quoi. 150 personnes sur place. Mmh. Donc, séparés par un cordon d'environ une trentaine de gendarmes, peut-être un petit peu plus, quoi.
Donc, et les gendarmes qui protégeaient qui? Les fachos qui rentraient dans la salle, hein, c'était nous. Enfin, c'était
ils devaient nous contenir, nous, hein, c'est bien sûr.
C'était ça, ils étaient tournés vers les manifestants, bien sûr. C'est les manifestants qui surveillaient, ils ne surveillaient surtout pas les différents dangereux appellistes à la haine qui rentraient dans la salle derrière eux, quoi.
Bien sûr, bien sûr.
Le danger, c'est l'islamo-gauchisme, c'est connu.
Mmh. Exactement. Donc, ambiance un peu électrique, quoi. Bon, il n'y a pas eu de débordement, à part quelques slogans.
C'est pas des débordements, ça.
Pas de débordements. On a parlé de l'explosion d'un pétard. Moi, j'ai pas entendu. Hein.
Alors, honnêtement, j'ai vu le pétard partir. Il est arrivé derrière le cordon de flics. Ça s'est bien géré. Hein. On a eu le droit à une invective d'un des policiers qui a dit « Oh non, hein, surtout pas de pétard. Hein. »
C'est pas bien ce que
mais
vous
bon,
faites.
Voilà, c'est pas... Voilà. C'était bon en... Non, c'était rigolo, moi, je trouve, plutôt dans les slogans et tout, parce que... Ouais.
Pétain, t'as oublié tes chiens. On devrait les envoyer au goulag autogéré. Moi, je pense que c'était la meilleure, franchement. Magnifique. Donc, pourquoi ce rassemblement, en fait? Parce que moi, je trouve que en fait, y avait à faire, parce que vraiment, ce qu'il faut éviter, à mon avis, c'est vraiment cette banalisation, en fait, déjà des idées d'extrême droite et des meetings, en fait, en Bretagne, parce qu'on sait que il y avait... Le meeting qui devait être organisé à Saint-Brieuc avait été annulé, quoi, à la suite d'un jet d'objets incendiaires sur la salle. Donc vraiment la crainte, notre crainte, enfin je pense à plusieurs, c'était vraiment que ce rassemblement soit un peu le rassemblement de la région, quoi, qui ramène quelques énervés, et la crainte aussi de la présence de certains groupuscules comme Braise Atao, ce qui ne s'est heureusement pas fait, quoi. Donc voilà, on espère que de par cette mobilisation, quoi, dans le futur, il n'y ait pas d'autres meetings dans notre belle région et ailleurs, parce que ici comme ailleurs, ils n'en seront pas la bienvenue. Hein. Et puis voilà, quoi.
Non, puis on peut quand même remarquer la grande décontraction des flics, quoi. Enfin, ils avaient l'air tranquilles, quoi. Enfin,
les gendarmes, ouais, ils avaient l'air tranquilles.
Pas de casque, enfin... Ils discutaient.
Bien sûr, il y a eu du dialogue avec les gendarmes et les manifestants, comme je disais. Donc encore une fois, personnellement, moi je trouve que ça se passe toujours mieux quand il y a la présence des gendarmes plutôt que la présence des policiers. Ouais, ça, ouais. Il faut le souligner.
Mmh. Donc, ils étaient quand même beaucoup moins stressés bien que sûr. Pour l'avenue de Marine Le Pen, quoi.
Enfin, bien sûr, bien sûr.
Pas d'équipement outrancier. Enfin...
Bien sûr, juste quelques casques et puis c'est tout, quoi.
Donc voilà.
Bon enfant,
puis plutôt réussi parce que. C'était un gros bide. Ça sentait la loose.
Après, je sais pas s'ils sont allés dans l'endroit où t'as le plus de terreau de tous ces abrutis, mais bon.
Ça.
Non, c'est clair, mais au moins, c'est ça, c'est que ça a pas rameuté du beaucoup de monde, quoi. Donc, c'est pour eux, c'est un flop. Donc.
Puis on notera quand même encore au passage le grand travail journalistique du Télégramme, puisqu'on avait, je crois qu'on a décidé dans la semaine qu'on avait marre du Télégramme et que lors des articles de merde, tu vois, comme par exemple tu parlais du filtrage des flics sur les ronds-points avant Saint-Renan qui faisaient des contrôles, qui étaient à la recherche de suspects. Suspects de quoi?
Suspect de manifester.
Et d'ajouter sur une photo que la force policière avait tout, et la préfecture avait tout anticipé, et qu'ils ont correctement encadré, enfin, je sais plus ce qu'ils emploient comme terme, mais, les punks à chiens qui étaient venus, parce qu'ils parlent des autres associations qui appellent, ou des syndicats, mais il y avait aussi les groupes Antifa, et ils remettent le terme punk à chiens, il me semble. Ah non, ça c'est, pardon.
Non.
C'était un commentaire sur leur article.
Le Télégramme, ils ont dit, parmi eux, des gens de gauche du pays d'Iroise, venus dans le CAM dire leur refus de voir l'extrême droite prospérer, mais aussi des militants brestois des collectifs antifascistes beaucoup plus velléitaires.
Ah oui, velléitaires.
Velléitaires. Voilà. Moi, j'ai pas vu tant de velléité que ça, quoi.
C'est le Télégramme, ça, faut pas.
Ben non, mais quand on dit facho à quelqu'un, le Telegram, ils ont l'impression qu'on les insulte, alors qu'on leur confirme juste leur identité.
Bien sûr. Et eux-mêmes ne s'en cachent pas, hein, de toute façon.
Oh ben,
le service d'ordre était là à nous ricaner.
Ouais. Voilà, ils faisaient bien les malins derrière les 30-40 flics. Quoi.
C'est clair, c'est clair.
Ouais. Le service d'ordre, c'est tous des anciens du GUD ou d'Action Française. Donc,
voilà, c'est ça.
Tu sais d'où ils viennent. Hein,
exactement. Puis toujours la même dégaine, quoi, skin... avec un bon bidon, quoi, histoire de faire un peu daron, comme on dit, quoi. Mais...
Et en plus, c'est franchement dégueu d'aller sous-entendre que les militants antifascistes étaient velléitaires. Velléitaires de quoi, on ne sait pas, d'ailleurs. Quand même, à un moment, dans cet affrontement verbal, quoi, entre les pro-Zemmour, là, et les gens qui venaient redire qu'ils étaient tout à fait contre ces théories dégueulasses. Il y a quand même eu un petit moment assez mignon de les gens qui sont arrivés, qui venaient pour assister à ce meeting de Zemmour, qui se sont trompés d'endroit pour rentrer et qui du coup sont pratiquement rentrés dans la foule de manifestants velléitaires antifascistes. On tient à signaler qu'à aucun moment ils n'ont été... bousculés, chahutés. Les militants antifascistes sont des gens mesurés, calmes, déterminés à dire ce qu'ils ont à dire. Mais en tout cas, on n'est pas violents, quoi.
Je crois qu'il leur a juste été dit qu'ils étaient trompés de côté.
C'est ça.
C'est ça, ouais.
Ça va quand même, on les informe en plus.
Bien sûr.
C'est là-bas, à la porte de la loose.
Bon, sachant qu'ils vont quand même soutenir quelqu'un qui a été, lui, condamné pour incitation à la haine. Hein.
Ouais.
Donc je sais pas qui c'est le plus violent dans tout ça.
Hein. Exactement.
Et moi, j'étais impressionné encore une fois quand même, parce que il y avait l'air d'avoir un équilibre homme-femme, là, parmi les participants à cette réunion. Je comprends pas les femmes qui soutiennent Zemmour, moi.
Bah, c'est vrai que soutenir un candidat qui est misogyne et anti-féministe, moi non plus, je
l'ai pas, ça. Ça prouve leur connerie, ils réfléchissent à rien, quoi.
Exactement.
Ouais. Est-ce qu'on a autre chose à dire là-dessus, du coup?
Ça fait déjà beaucoup de temps de parole.
Ouais, ça suffit.
Ouais, voilà, donc, ouais, juste bravo à ceux qui ont soutenu et qui étaient présents au rassemblement. Et puis.
Et on lâche rien.
On lâche rien, ça se refera tant qu'ils seront là, en fait.
Ouais, la Bretagne est antifa. Voilà. Schiste.
Quittant à enchaîner sur les déclarations de racisme, donc on enchaîne donc sur la poursuite des procès à Pontanezen.
Du coup, on a été rencontrer les avocats des inculpés de Pontanezen avec Naori. C'est la deuxième fois qu'on les voit. On a un premier enregistrement qu'on diffusera sûrement après l'émission, là, qui est un peu long. Mais là, du coup, on avait été les voir et les contacter pour qu'ils nous expliquent comment ils trouvaient que le procès s'était déroulé. Et puis, on a fait un petit montage très rapide. Là, on en fera sûrement un plus long qu'on diffusera plus tard, mais on va commencer par vous faire écouter ça.
Ouais.
Donc là, celui de Rustrac et Tracol. On est d'accord.
Rustique.
Rustique. Ah oui, d'où le Rustrac. Rustique et Tracol.
On va y arriver.
Allez, je vous l'envoie. Il arrive.
Après le procès, quel bilan vous faites de ce procès-là et des peines qui sont tombées?
Alors, ma crainte principale par rapport à ce procès, c'est l'aspect parfaitement médiatique. On l'a bien vu, de l'opération de sécurité. Et là, on voit bien pourquoi, parce qu'on est dans une période électorale et qu'on voit bien que de tous côtés, j'ai envie de dire, on a le droit... aux excitations sécuritaires de certains qui veulent se différencier de tel ou tel candidat, on voit bien que l'ambiance générale est à cela. À partir de là, si vous partez du début de cette affaire, il y a donc cette opération de police, soi-disant de contrôle d'identité, on voit bien que les policiers arrivent en masse, armés, etc., et qu'on n'est pas que sur du simple contrôle. Et puis, juste après l'affaire, vous avez dans la presse locale un article quotidien sur ces événements et sur le quartier de Pontanezen. Et on met en place des CRS qui patrouillent dans le quartier, etc. Et on voit bien que les choses ne sont pas sereines. Et je vais même vous donner un événement bien précis qui montre que les choses ne sont pas sereines. Une semaine ou 10 jours après les événements, je suis appelé en garde à vue pour quelqu'un. qui a eu une fouille de sa voiture, et en fait ça ne dépasse pas le stade de la garde à vue, parce que je lui pose des questions à la fin de l'audition sur la manière dont il a été contrôlé, et en fait c'est une fouille qui a eu lieu sans OPJ, en toute illégalité. Donc on voit bien qu'on était juste après parti dans le spectacle sécuritaire et l'oubli de l'état de droit. Voilà. Bon. Quand j'ai vu ça, je craignais effectivement qu'il y ait une forte pression sur dans le cadre de l'audience. Maintenant, vous avez bien vu qu'il y avait 4 infractions qui étaient reprochées aux prévenus. Vous avez bien vu que les débats ont été assez âpres, hein, chacun a argumenté, etc. Je ne suis pas totalement satisfait de la décision en tant qu'avocat, parce que je pense qu'il y avait une discussion par rapport à la séquestration, mais le tribunal s'est prononcé en droit et il a décidé de relaxer sur 3 des infractions et il a décidé qu'une autre était constituée. Quand vous voyez la manière dont l'affaire a éclaté, quand vous voyez après les débats, les réquisitions qui ont été faites, on voit bien que le ballon s'est largement dégonflé pendant l'audience. En cela, pour moi, c'est une audience satisfaisante. Moi, j'aurais pas tranché comme ça, mais je suis pas magistrat. Et je dis que dans le dossier, on pouvait quand même, éventuellement, peut-être trancher comme ça. Nous, on s'est mis sur le plan du droit, savoir si les infractions existaient, etc., etc. En fait, la relaxe tenait, c'était donc la question, c'est sur la séquestration. Et dans le dossier, effectivement, il y avait des éléments qui faisaient qu'on pouvait discuter de la séquestration. Il y avait des éléments à charge, des éléments à décharge. Et nous, donc, on pouvait dire sur la séquestration qu'il y avait un doute et qu'il profitait. Enfin bref, on a développé tout ça. On défend notre client. Et c'était tout l'enjeu, hein, très clairement. Pour eux, ils se réfugient dans cet appartement parce qu'ils veulent échapper à la police. Hein. On l'a bien vu d'ailleurs dans l'audience. Maintenant, il y a une question quand même. C'est la propriétaire de l'appartement est-elle totalement libre de ses mouvements lorsqu'ils sont là, etc. Donc vous voyez, pour le coup, on n'est pas sur quelque chose de parfaitement tranché, parfaitement clair. Voilà, il y avait matière à discussion.
C'est notamment tranché que la personne qui est présentée victime ne le fait pas en son propre nom. Cette figure de la victime-là, elle est, j'aurais tendance à dire fantasmée par le ministère public.
Elle est fantasmée par le ministère public, je suis d'accord partiellement. Elle est surtout, il y a une chose qu'a montré l'audience, c'est que on aurait bien aimé en savoir un peu plus. Et normalement, en toute logique, elle aurait dû être réinterrogée après les auditions, ce qui n'a pas été fait. Mais ça, c'est le choix de la comparution immédiate. Et ça, on l'a vu aussi, que c'est un choix procédural qui, quelquefois, diminue la valeur du dossier, parce qu'il faut faire tout vite et que du coup on ne fait pas tout ce qui devrait être fait.
C'est un choix du procureur, ça.
Tout à fait, c'est un choix de poursuite. Mais... Donc ça c'est un premier problème. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord.
Mais dans ce dossier, la relax était impossible. Il aurait fallu, en plein endroit, mais on ne fait pas que du droit dans un tribunal. Ça aurait été un désaveu absolu du procureur. Si tout le monde avait été relaxé dans ce dossier, toute l'opération tombait à l'eau, devenait ridicule, et les émeutes qui s'en sont suivies devenaient quasiment légitimes. C'est un fiasco, ça aurait été un fiasco catastrophique pour le procureur.
Mais là, on ne parle pas de droit, on parle de politique.
Oui. Mais il y a une pression, comme vous l'a dit mon compère, une pression terrible, constante, permanente sur les magistrats, qui est faite par les politiques, mais par les journalistes, par l'opinion publique. Le grand titre du Télégramme, imaginez tout le monde relaxé, circuler, il n'y a rien à voir. C'est un véritable clash. Enfin, donc c'est politiquement, c'est quasiment impossible à obtenir une relaxe dans un cas comme ça. Il y aurait eu appel du parquet, sera parti à la cour d'appel de Rennes, et la cour d'appel de Rennes aurait remis bon ordre en tout ça en condamnant les gens. Parce que il en va de l'ordre public aussi. On se fait aucune illusion sur le pays dans lequel on vit. Enfin, en tout cas, moi, je ne me fais pas d'illusion sur le pays dans lequel je vis, sur la justice dans laquelle qui est là, qui est très imparfaite. J'en veux pas aux magistrats, mais je constate qu'ils sont soumis à des pressions terrifiantes et que bah, c'est difficile de leur reprocher de ne pas céder. Donc oui, c'est bien sûr que c'est politique, mais la justice, ça a toujours été politique. On est bien loin d'une justice qui soit un pouvoir à égale hauteur que le pouvoir de l'exécutif ou du pouvoir législatif, et qui puisse dire aux autres pouvoirs, je vous emmerde, c'est comme ça. Le droit, c'est ça, et puis c'est tout. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil.
Mais c'est quand même inquiétant, du coup, de se dire qu'on a une justice, en fait, qui est très largement influencée par...
Ben, cette politique. Oui, alors sur ce point, moi je vais vous répondre par une autre inquiétude. Depuis novembre 2015, c'est-à-dire les attentats, on a quand même vu dans ce pays de sérieuses atteintes aux libertés, que ce soit suite aux attentats, que ce soit dans le cadre de la crise sanitaire. C'est quand même, il y a des infléchissements de l'état de droit qui sont inquiétants. Le tout d'ailleurs validé par le Conseil constitutionnel, ce qui poserait un certain nombre de questions. Bon, jamais, jamais, je crois, j'ai vu un Parlement autant aux ordres de l'exécutif que sur ces 5 dernières années. Dans ce contexte-là, eh bien, heureusement qu'on a le pouvoir judiciaire. Alors, certes, il est sous biais des pressions, certes, certains de ses représentants peuvent prendre de mauvaises décisions ou de bonnes, ça, bon, chacun apprécie, mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de magistrats qui essaient de tenir bon et de juger en étant indépendants, même si constamment on voudrait les empêcher de le faire sereinement.
Oui, mais parce après, c'est la vraie morale de l'histoire, c'est ça.
Hein. Du quartier.
Oui, non, mais la vraie morale de l'histoire, c'est ça, c'est que tout ça, pourquoi ? C'est-à-dire qu'en vérité, on a une opération policière qui fait que des gamins, pour la plupart strictement innocents, prennent la fuite, se retrouvent condamnés pour séquestration avec cette mention sur le casier judiciaire. Derrière s'enchaîne une série d'émeutes à Pontanézen, le feu, les trams, tout cassé. Tout ça, pourquoi ? Et donc la vraie interrogation, c'est... Dans quel état est-on rendu aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait tous ? Mais c'est pas que fait la police, que fait le procureur ? Le procureur aussi, il doit répondre à des obligations de chiffres, de nécessité. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette société-là où, pour essayer de marquer l'autorité, pour essayer de rétablir l'ordre, on crée le désordre, on crée des gens qui sont en réalité des innocents en prison, même s'ils deviennent coupables par leur fuite, par le fait qu'ils se réfugient dans un appartement, résultat, ça fait des gamins avec des casiers judiciaires. Ben, pas pour tous, mais enfin, pour certains, c'est des casiers judiciaires pour rien, parce qu'on a fui avec les copains, qu'on s'est réfugié dans un appartement. Et derrière, il y a eu des gros dégâts matériels, et on a envie de se demander, mais tout ça, pourquoi ?
Ce qui me choque dans cette affaire, ce qui m'a choqué, c'est pas le contrôle, ce qui m'a choqué, c'est la suite. C'est-à-dire qu'on a quand même une vidéo où on voit très clairement les choses. Il y a après l'intervention, ce début d'émeute, je ne sais pas si c'est une émeute, un début, une altercation, enfin bref, on voit un groupe de jeunes et puis qui s'opposent à la police. Et là, il y a utilisation de flashball. Et moi, alors là, pour le coup, ce qui me choque énormément, et ça vient confirmer ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années, c'est que, et c'était dans le dossier d'ailleurs, il y a plusieurs tirs de flashball sur des jeunes émeutiers, soi-disant, mais qui n'atteignent jamais leur cible. Et ce que l'on sait, puisqu'on a une vidéo, c'est qu'il y a quelqu'un qui est totalement en dehors de ça et qui filme, et qui prend une balle de flashball en pleine tête. Et là, ça me pose une vraie question sur les forces de sécurité. Parce que faire face à des situations de tension comme ça, eh bien ça demande d'avoir des professionnels formés pour ça. Et moi, j'ai l'impression que maintenant, on est en train d'utiliser, justement parce qu'on fait de la sécurité spectacle, un peu n'importe qui, dans des rôles qui ne sont pas des rôles habituels pour eux. Et moi, ce qui me choque énormément dans cette affaire, c'est la façon dont a été utilisé le flashball ou les flashballs avec ces tirs dangereux pour des gens qui sont autour et qui sont des gens, des personnes âgées, des enfants, etc. Donc ça, je trouve ça très choquant. Sur le contrôle lui-même, le début du contrôle, dans le dossier, nous n'avons pas énormément d'éléments, puisqu'on a juste un PV qui dit il y a un contrôle, etc. Et on ne sait pas. Donc c'était pas au centre des débats parce que c'était pas dans le dossier, quoi. Voilà. Après, on aurait eu des éléments, peut-être qu'il y aurait eu un débat.
Il y a aussi quelque chose qui n'est pas pensé dans notre société au niveau de l'État, c'est la distinction des rôles de la police entre ce qui est la répression des contraventions, enfin des infractions, pardon, c'est-à-dire le fait d'appréhender ceux qui violent la loi, les bandits, et le maintien de l'ordre. Et là, vous en avez un exemple typique. C'est-à-dire que, est-ce qu'on vient mettre de l'ordre, montrer la force et l'ordre, ou est-ce qu'on vient interpeller des délinquants et surprendre des flagrants délits? Et c'est cette confusion des deux rôles. On donne beaucoup de pouvoir à la police pour lui permettre d'arrêter des délinquants, ce qui est sans doute bien, qu'ils aient suffisamment de pouvoir pour arrêter Pablo Escobar ou des trafiquants d'êtres humains et des choses épouvantables, des assassins ou des violeurs, tout ce que vous voulez. C'est très bien d'arrêter les délinquants. Mais si ce même pouvoir, on le donne à la même police qui est chargée à côté de ça du maintien de l'ordre, ça pose aussi problème parce que ce sont deux rôles différents. Et il faut penser différemment ce qui est la police de l'ordre, de la voie publique, de la circulation, du circule dormez bien braves gens, avec celle qui est de la répression de la délinquance, qui a une toute autre mission. Et la confusion des deux, la non-distinction des deux, savoir si le procureur, qui est là chef de la police judiciaire, qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là, est-ce qu'il venait vraiment mettre fin à une infraction, faire un flagrant délit, attraper un coupable, appréhender un coupable, ou est-ce qu'il venait simplement faire une manifestation de la toute-puissance de l'ordre?
Ben moi, ce qui m'a un peu pas choqué, mais interpellé, c'est que la juge n'a pas trop pris justement en compte ça, justement. Elle a plutôt justement accusé les prévenus qui étaient dans le box, quoi, elle leur a même demandé plusieurs fois pourquoi est-ce que vous fuyez la police. Comme si les accusait en fait de délit de fuite, alors que je pense qu'elle est très bien au courant de la situation et des comportements de la police dans certains quartiers.
Parce qu'elle est dans un rôle de représentation. La presse est là, la police est là, elle est juge, elle ne peut pas dire autre chose.
Je pense qu'il y a... Excusez-moi.
Oui, non, mais c'est du dévoiement de ce qu'est le contrôle d'identité, c'est-à-dire l'utilisation d'une procédure légale de lutte contre la criminalité qui est de demander à des gens de justifier de leur identité parce que ça peut être des bandits, des gangsters, des gens recherchés, des terroristes, tout ce que vous voulez. Et en fait, ça sert de modalité de contrôle social, voire d'oppression sociale. C'est-à-dire qu'on demande les papiers toujours eux-mêmes. Moi, on ne me demande jamais mes papiers dans la rue. Et j'avoue que je serais très choqué si on me les demandait. Donc on demande toujours eux-mêmes les papiers, et c'est un moyen de contrôle social, de toujours devoir se justifier en permanence. Et c'est sûr que ça tape sur les nerfs. Quand vous avez plusieurs contrôles dans la même journée, ça devient vite insupportable. Et c'est un petit jeu tout à fait malsain entre la police et les
jeunes. C'est du harcèlement légitime, en fait.
Oui.
C'est exactement
ça. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai 53 ans. Depuis 53 ans, j'ai soufflé deux fois dans le ballon. Et je n'ai jamais eu un contrôle d'identité en 53 ans. Maintenant, il faudrait faire une enquête à Pontanezen auprès de ceux qui ont entre 16 et 25 ans et leur demander cette période entre 16 et 25 ans combien de fois ils ont eu un contrôle d'identité.
On a fait appel, tiens, sur les petits.
Ah oui ?
Parce qu'en fait, au juge des enfants, qui était avec, puisqu'il y avait trois mineurs, avec les cinq mecs, la juge, elle ne s'est pas embarrassée de...
Quand même, sur la séquestration, excuse-moi, quand elle dit elle peut communiquer, etc., il n'y a pas séquestration, c'est pas forcément idiot. Hein.
Enfin, en tout cas, elle a dit, il n'y a pas séquestration, par contre, il y a violation de domicile.
C'est étrange, ça. Moi, je pense qu'il y a...
C'est pas...
Moi, juridiquement, ça me semble plus fondé.
C'est pas si étrange que ça. Enfin, et en tout cas, le fait est, c'est qu'on a une contradiction
de jugement.
De jugement.
C'est ça que je trouvais étrange. C'est pas. On était particulièrement surpris que ce soit la séquestration qui a été retenue pour.
Oui. Alors que la violation de domicile, la voie de fait, elle peut venir, parce qu'il faut une voie de fait, elle peut venir du fait qu'il rentre en masse. Vous voyez ce que je veux dire, rapidement. Mmh. Ça, c'est une forme de voie de fait. Après, sur la séquestration, moi, ce que. Effectivement, elle est maintenue. Ils l'ont peut-être bloquée, mais en fait, c'était pour se protéger de la police, c'était pas pour la séquestrer. Et sur l'intention là-dessus, moi, je les trouve quand même un peu légers. Ça se discutait. Maintenant, j'irais certainement pas faire appel dans ce dossier. Ah,
mais sur les petits, ça tient bien la route. Il y a la question de la culpabilité dans un premier temps, puis la question de la peine, 3 mois ou 4 mois ou 6 mois plus tard. Et en fait, comme c'était 3 frères qui étaient à la dérive, la juge a pensé que son rôle éducatif devait primer et qu'il fallait bien les condamner à quelque chose qui permettait de les mettre sous pression sur 6 mois et les obliger à reprendre l'école ou à faire une formation, etc. etc. Tandis que si elle les relaxait de tout, elle les encourageait dans une dérive et dans une rupture scolaire. C'est pour ça qu'elle a retenu... qui avait une violation de domicile. Mais c'est pas du tout... On a fait appel, ça tient pas la route, parce que les petits étaient aussi effrayés. Tout le monde était effrayé, en réalité. C'est les policiers qui effrayaient tout le monde. La dame était effrayée, mais les enfants, ils étaient totalement effrayés. Imaginez avec des policiers qui sont en train de défoncer la porte, tout le monde avait très peur, en fait. Et donc, bon, alors on a fait appel.
C'est le résultat d'une situation de tension. Mais c'est ça, en fait. Et là, je sors du tribunal où, d'une affaire qui commence exactement pareil. Un étudiant au couvre-feu, il voit la police arriver. Comme il a dépassé l'heure du couvre-feu, il s'enfuit en courant. Et les policiers qui viennent pour toute autre chose pensent que les 3 qui s'enfuient en courant sont les responsables d'une agression.
Okay, ouais.
Donc, on part, là aussi, sur une escalade. Et lui, comme il est interpellé un peu vigoureusement, eh bien, il réagit, etc. Et donc, voilà, ce sont des situations assez classiques. Après, en principe, ils doivent se soumettre au contrôle. Pour des jeunes qui ont déjà eu affaire à la police, etc., on sait que le réflexe, c'est de partir. Parce que se faire contrôler, c'est avoir des ennuis. Donc, on préfère s'enfuir. Voilà, c'est le réflexe. Mais ce qui pose d'ailleurs une vraie question sur comment ça se fait que on se retrouve dans ce pays avec des jeunes dont le réflexe, c'est s'enfuir quand il y a la police.
Ouais, bah du coup, c'était un extrait de l'entretien qu'on a eu avec deux des avocats, enfin ceux qui nous ont répondu, parce qu'on les avait tous contactés, deux des avocats des jeunes de Pont-à-Nézène. Après la midinale, on va rediffuser un montage un peu plus long du premier entretien qu'on avait eu avec eux. Et ben, je pense qu'on sera amené à reparler de cette affaire, parce que même si le procès là est clos et que... Bon, au moins pour les 5 majeurs, il y a peu de chances qu'il y ait un appel. La couverture qui a été faite des événements de Pont-à-Nézène laisse quand même énormément à penser, et notamment à propos de la manière dont les flics se sont comportés lors de cette prétendue séquestration là. Il mentionnait du coup la vidéo des tirs de flashball où des gens se sont fait blesser avec les flashballs, et c'est quand même particulièrement intriguant vu toute la couverture et tout le battage médiatique qu'il y a eu là-dessus, qu'il n'y ait absolument aucun papier et absolument rien qui soit sorti là-dessus, parce que la vidéo avait été transmise aux journaux d'information locaux et personne l'a relevé. Donc on essaiera éventuellement, si on en a l'occasion, leur demander de nous expliquer comment ça se fait, quoi.
Tu veux dire oui aux médias locaux, puis nous on en profitera peut-être pour la diffuser du coup, la vidéo.
Ouais. On va essayer.
On va la rendre publique, hein. Je pense que c'était le but, pourquoi on l'a reçue, quoi.
Moi j'aimerais bien savoir aussi comment ça se fait que ce soit pas repris, quoi.
Ah oui, ça c'est sûr.
Enfin, comme il a dit, l'avocat, en fait, c'est tant que c'est pas saisi, en fait, il n'y a pas raison d'en parler, en fait.
Oui.
Tant que c'est pas saisi au tribunal.
Non, il n'y avait pas de. Comme il n'y a pas eu de plainte, il n'y avait pas de raison qu'il y ait de procès. Voilà. Mais, enfin, ça n'empêche pas d'en parler.
Bien sûr, mais
Je veux dire, c'est le rôle de la presse.
Ouais, voilà, le bâton va, la presse va pas donner le bâton pour fouetter les on va dire l'institution de police, quoi. Ouais. Et malheureusement, ça c'est pas acceptable du tout.
Non, par contre, à côté de ça, on continue d'utiliser des feux d'artifice qui embellissent le ciel brestois pour continuer à balancer des titres honteux, comme ça a été encore fait dimanche midi sur le Telegram. Hein. Les faits, apparemment, un feu d'artifice tiré depuis un balcon d'un immeuble, mais en hauteur, hein. Et le Telegram qui titre « À Brest, des tirs de mortier d'artifice ont-ils visé un bus à Bellevue samedi soir ?» Alors déjà, par le titre, hein, on comprend bien la position qu'ils prennent. Et ce qui est marrant, c'est que tu déroules leur article et à la fin, il n'y a rien, quoi.
Bien sûr.
Il n'y a que dalle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tir sur un bus, quoi. C'est absolument scandaleux. Mais ils précisent quand même qu'aucun blessé n'a été à déplorer.
Ah bah, s'il n'y a rien eu, il ne peut pas y avoir de blessé, on est d'accord.
Mais c'est quand même fantastique de le préciser, quoi. Bah tu vois, on sent bien qu'ils attendent, quoi. Ils continuent à mettre de l'huile sur le feu, quoi.
Et c'est plus vendeur un tir de feu d'artifice qu'un tir de flashball.
Ouais. C'est clair. On devrait faire une nouvelle rubrique courte dans la Médinale. Ivre, virgule, un journaliste publie dans le Télégramme.
Ouais, mais ça, c'est de la diffamation, non ? Ils vont nous embêter après.
Bon, oh. Pas à peine. Il y a un moment, ils savent pas faire leur boulot. Écoute, bah bon,
ouais,
allez.
C'est comme ça.
Ouais, mais enfin, on voit quand même bien aussi que un des intérêts de ce battage et de toute cette propagande qui est faite propagande ou récupération de ces événements-là, c'est quand même pour une part de convaincre l'opinion publique de la dangerosité de certaines personnes et d'essayer de faire adhérer tout le monde. À un certain soutien absolu et sans équivoque à la police et quoi qu'elle fasse. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Et on voit d'ailleurs que ça conduit à des mouvements de milices, de voisins vigilants et ce genre de choses. Et il y en a un qui a été particulièrement actif dans cette affaire-là, qui a fait énormément de récupération, c'est le collectif des bergers du quartier. Donc, il n'est pas un collectif qui s'est monté particulièrement à ce moment-là. Il était déjà constitué avant. Par contre, ils ont été très rapides et très efficaces dans la récupération, puisqu'ils avaient lancé une pétition pour que des prétendus délinquants ou des gens qui sont étiquetés comme tels soient virés de leur logement. Mais ils avaient commencé leurs activités pendant le confinement et bien avant. Et pour avoir une idée de ce que peut être leur rhétorique et de la manière dont ils nomment les gens, on va vous passer juste un court extrait d'une vidéo qui a été mise sur le compte des bergers du quartier. C'était en juillet dernier, donc on était encore dans des mesures post-confinement. Et il s'agit d'un appel à la police, parce qu'on est au moment de la fête de l'Aïd et qu'il y a des fusées qui ont été tirées pendant la nuit. Et donc cette personne, ce voisin vigilant, appelle le commissariat pour se plaindre. Et je crois qu'on pourra apprécier la manière dont il qualifie les jeunes du quartier.
Oui, bonsoir monsieur. Alors j'habite à 400 mètres du quartier HLM de Kérourien et c'est la quatrième nuit d'affilée que des ordures égoïstes y font exploser des pétards et feux d'artifice minuit passé. Là nous sommes le samedi 23 juillet et depuis 4 jours nous subissons le même calvaire. Pourriez-vous s'il vous plaît envoyer une équipe pour écraser ces ordures comme cela devrait se faire dans un état qui se fait respecter?
On est enregistré, attention à ce que vous racontez.
Bah c'est très bien qu'on soit enregistré monsieur.
Faut maintenir vos propos quand même. Hein.
D'accord.
Dans le quartier de Kérourien, c'est ça?
C'est ça.
Donc vous êtes monsieur ?
Yenier, Yenier.
Et donc c'est quelle rue que ça se passe ?
C'est au sein de la cité, devant le centre social certainement.
Devant le centre social. Proche du centre social, j'ai marqué plutôt. Vous n'avez pas du tout de nom de rue, quoi de...
Si, rue Perica, certainement. La rue
Perica, voilà. Très bien, bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire.
Vous allez voir ce que vous pouvez faire. Il y aura une équipe qui sera envoyée ?
Oui, mais bon, pas une équipe avec des gyros, hein, une autre équipe.
Ça serait une équipe voilà, en civil.
Prendre des prix possibles.
D'accord. Très bien.
Voilà.
Bon, merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Quelle grosse merde.
Ces ordures égoïstes, quoi.
Oui, et puis il appelle à les écraser, quoi.
Enfin, voilà, c'est ça.
Ouais. Bon, bref, c'était juste pour avoir un exemple de la rhétorique qui maintenant s'est polissée, en effet, mais bon, il n'y a pas besoin de gratter très loin pour voir de quoi il s'agit. Et voilà.
Bon, ben, ce que je propose, c'est qu'on termine cette deuxième partie.
Yes.
Sur ça. On va faire une courte pause musicale, vu l'heure. Et puis on vient refaire un tout est pas rien, mini agenda, un truc d'un genre. On fait ça. Donc là, on envoie une sélection de DJ Pedro. Les vulves assassines, c'est moi qui te baise.
Ma passion.